Vision Product Group Products avec un S, Apple en rebaptisant l'ex Technology Development Group, confirme implicitement travailler sur plusieurs produits sous la marque Vision. Il est question d'une V2 du Vision Pro, mais aussi d'une version plus abordable du masque de réalité mixte, et on va en parler.
On parle d'un produit à 4000 balles, hein, donc ça sera un succès quand tout le monde pourra en avoir un.
Encore 3 mois de patience à peine avant l'arrivée probable des premiers Mac M3. Il devrait être courant octobre, les vedettes de la deuxième keynote de la rentrée, après celle prévue en septembre pour l'iPhone 15 et l'Apple Watch série 9. Alors sur quel Mac M3 compter à 2 mois de Noël? Marc Gurman et nous avons quelques intuitions.
Je ne serais pas étonné, moi, que maintenant qu'il y a un Mac mini M2 et M2 Pro, que Apple fasse une petite pause sur cette machine d'entrée de gamme. Voilà, c'est formidable. Et que pour donner un petit peu de place à l'iMac M3, qui aurait effectivement beaucoup de sens.
Les rumeurs de la semaine avec des paniers à 3 points à venir dans le Vision Pro, un nouveau type de batterie pressenti dans l'iPhone 15.
Apple serait les premiers à utiliser cette sorte de technologie, sorte de vieil état, vous savez, en couches successives. Mais le cerveau utilise ce type de plissage.
Et Apple qui s'intéresse au grand championnat de foot européen, et notamment en Allemagne, à la Bundesliga. Et puis le bonus hebdo exclusif pour notre communauté Patreon sur patreon.com/iWeek. Aujourd'hui, où en est l'eSIM en France, alors que le doute grandit autour du maintien d'un tiroir pour carte SIM physique dans le futur iPhone 15. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous en ce 18 juillet 2023. Il est 18h37, c'est l'épisode 147 d'iWeek, la semaine Apple. C'est la dernière de la saison 3, enfin presque, hein, puisque plusieurs spéciales vont nous permettre de faire la jonction avec le début de la saison 4. Et on vous donne déjà rendez-vous autour du 23-24 août. Pour notre rentrée, on devrait être alors à moins de 3 semaines de la keynote de l'iPhone 15 et de l'Apple Watch série 9. En attendant, je m'appelle toujours Benjamin Vincent et je suis toujours aussi heureux de vous retrouver pour un nouvel iWeek LSA. Eh bien, ça tombe bien, c'est le hashtag à utiliser sur Twitter, Mastodon et Threads, si vous y avez toujours accès. Threads, où le compte iWeek News est arrivé il y a quelques jours. Salut Ellie!
Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous, ravi d'être là, et par rapport à la rentrée, je me demande quel cartable allons-nous choisir pour cette prochaine rentrée.
Bon, en attendant, il faudrait que tu te rafraîchisses un petit peu.
Il fait super chaud.
Bon,
ça veut dire qu'on est en canicule,
hein. Complètement anormal, oui. Bon, on va essayer de te rafraîchir avec nos sujets aujourd'hui, Ellie. Je rappelle que tu es le cofondateur des Apple Premium Reseller MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence, et tu es le président, chut, on ne le dit pas trop fort, des APR en France. Salut Gilles Dounès.
Oh, salut Benjamin Vincent. Bonjour. D'ailleurs, ça ne s'appelle plus comme ça, les Apple Premium Reseller.
Ah bon?
Si.
Il n'y a pas un nouveau terme pour les revendeurs de gamme de chez Apple?
Oui, il y a un nouveau canal qui va progressivement remplacer les APR dans les cinq prochaines années. Dans les 5 prochaines années, donc pour l'instant, que je sache, il y a un seul magasin en France qui est en cours de transition, parce que ça implique de nombreux investissements, aussi bien en locaux, en taille des locaux, en personnel, etc. Mais c'est un nouveau mobilier, un nouveau look. Il y en a un en Italie pour l'instant, et il doit y en avoir en Belgique. Et en fait, ça va s'appeler, pour ceux qui passeront ce cap, APP, qui veut dire Apple Premium Partner. Donc Apple revient à une notion de partenariat. Ils n'ont jamais réussi à nous prouver en 43 ans ce que ça voulait dire pour eux, mais c'est bien tenté au niveau marketing.
Gilles, donc je rappelle que toi tu es l'ancien rédacteur en chef de MacPlus.net et le co-auteur d'iPod Backstage avec Marc Geoffroy, qu'on salue. Et salut Fabrice Neumann.
Salut mon capitaine, salut à tous.
Comment vas-tu?
Ça va, j'ai chaud aussi, mais moi je suis dans le sud-ouest, alors donc du coup, ouais. En ce moment il y fait un petit peu moins chaud.
Il y a un petit peu d'air.
Un petit peu d'air, un petit peu, tout petit poil, hein.
Bon, en tout cas, tu as la coupe d'été pour ceux qui ont la version vidéo sous les yeux. Exactement. Je rappelle que tu es mentor en technologie. On te suit sur les réseaux.
Oui, bah oui. Alors donc du coup, un peu de Twitter, un peu de Mastodon, un peu Threads, un peu tout ça. Alors ça va, ça vient. Les réseaux, on en avait un peu parlé dans la quotidienne. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça bouge beaucoup. Et on verra. Mais c'est épuisant aussi parce que il faut y aller. Il faut vérifier s'il y a des trucs nouveaux pour voir si ça marche. Tu l'as évoqué un petit peu en sous-main tout à l'heure, Threads. Normalement, on n'y a pas accès depuis l'Europe. On se débrouille, on y a accès. Mais finalement, Facebook Meta bloque tout un tas de trucs. Et donc, pour l'instant, depuis l'Europe, quand on utilise Threads, on ne voit pas grand-chose. Donc, iWeek y est. Donc, le compte, c'est iWeek.news. Et au moins, on occupe le terrain. C'est déjà ça qu'on fait.
Bon, et tu veux pas nous donner ton adresse sur les réseaux alors ?
Oh bah Fabrice Neumann, moi je me cache pas, et donc @ Fabrice Neumann et voilà.
Voilà, parce que tout ça c'était juste pour que tu me donnes ton adresse sur les réseaux, tu sais.
Ouais, mais tu me branches sur un sujet, moi je parle. Hein.
Ah ouais, c'est vrai, c'est bien, on met une pièce, t'as déjà démarré, t'es déjà dans l'émission. Bon, et puis on te voit aussi via ton site.
Ouais, pro-fusion-conseil.fr.
Et bah voilà, ça marche avec le site, tu vois.
Oui, ça marche aussi.
Bon, je vous rappelle que la version vidéo de cet épisode est à découvrir en avant-première sur patreon.com/iWeek dès jeudi, sans pub pour nos soutiens évidemment, avant de devenir disponible sur YouTube à partir du dimanche. Sur Patreon, vous profiterez aussi de notre bonus exclusif cette semaine. Où en est l'eSIM en France alors qu'on parle d'un futur iPhone 15 sans tiroir pour carte SIM physique ? À suivre l'info de la semaine, les Mac M3 qui seraient annoncés au mois d'octobre lors d'une deuxième keynote d'automne. Mais avant cela, l'événement de la semaine, l'officialisation implicite par Apple qu'il y aura d'autres produits Vision très bientôt. A tout de suite. Apple prépare d'autres produits sous la marque Vision, c'est ce que confirme le nouveau nom de l'équipe en charge du Vision Pro, le premier masque de réalité mixte d'Apple qui doit sortir en début d'année prochaine, d'abord aux États-Unis. Cette équipe qui s'appelait jusqu'à présent le Technology Development Group et qui est dirigée par Mike Rockwell vient d'être rebaptisée Vision Product Group. Et il englobe toujours ceux qui travaillent sur le masque, à la fois le software, le hardware, etc. On remarque donc le S, très important au mot products, qui laisse espérer plusieurs déclinaisons du Vision Pro. On l'avait déjà évoqué, notamment une V2, potentiellement plus puissante, peut-être légèrement moins chère, et aussi une version carrément plus abordable si tout va bien. Alors c'est la première fois qu'un produit chez Apple a sa propre équipe autonome, même si l'Apple Watch avait commencé à fonctionner sur ce principe, et même si l'autre projet potentiel qui est l'Apple Car semble architecturé avec un silo complètement hermétique également et autosuffisant comme on dit. C'est une confirmation pour vous que le Vision Pro ne sera pas juste un épiphénomène, un produit envoyé comme ça qui va servir de test avant de passer immédiatement à des lunettes, voire à des lentilles de contact, comme en parlait Luc Julia pendant Vivatech. Fabrice, ça te fait rigoler ?
Alors ouais, ça me fait rigoler parce que déjà qu'on sait que le Vision Pro, donc qui nous a été présenté, sort l'année prochaine, difficilement en petite quantité, en tout cas pour Apple. Alors évoquer les lentilles de contact, ça va franchement pas être pour tout de suite. Il y a des limitations technologiques monumentales avant qu'on arrive à faire ça. Cela dit, rien n'empêche que tous ces produits d'ici donc en partant de 2024 jusqu'à 2032, comme je disais dans la quotidienne, tout ça peut s'appeler Vision, hein, que ce soit un masque, que ce soit des lunettes, et puis plus tard, beaucoup plus tard, des lentilles de contact. Très bien. Et je suis pas étonné non plus parce que l'annonce d'Apple, on se rappelle, hein, c'est pour eux, c'est une nouvelle plateforme, c'est un nouvel ordinateur. Donc c'est pas uniquement et c'est même pas du tout globalement un accessoire pour un Mac ou un accessoire pour un iPhone ou un accessoire pour un iPad. C'est une plateforme qui marche toute seule, basée sur son processeur M, ensuite alors ce sera 2, 3, 4, 12. Et donc tout ça, et qu'ils en fassent plusieurs, bah, du coup on va avoir, c'est une nouvelle gamme qui a été annoncée.
C'est ça. Élie, après je passe à toi Gilles, mais est-ce que c'est pas étonnant qu'Apple ait pas appelé ce groupe, l'ait pas renommé Vision Development Group, qui évitait d'avoir ce mot products avec un S au milieu qui a l'air presque une indication dont Apple est pas familière?
Non, parce que Apple insiste beaucoup sur le fait que ce sont vraiment des produits et non pas un développement, ce qui pourrait être hypothétique. Moi, j'aurais vu appeler cette division peut-être Mirage, parce qu'un Mirage, tu sais, c'est quelque chose dont on a envie, qui est loin dans le désert et qu'on n'y arrive pas facilement, mais...
Je lève un verre à ta santé, Élie, et tu m'as l'air bien chaud déjà, là. Gilles, est-ce que ça t'a étonné que qu'Apple fasse le choix de ce nom pour rebaptiser le groupe, qui laisse quand même présager d'autres produits, et des produits qui ne sont pas annoncés, donc qui n'existent pas?
Non, c'est un peu ce que je disais juste après la keynote, j'avais pas pu être là avec vous. C'est ils l'ont annoncé en tant que tel, c'est une véritable plateforme. Un truc qui va remplacer ou venir à côté de l'ordinateur et prendre à son compte un certain nombre de fonctions en ambulatoire plutôt que de rester à son bureau. Et heureusement qu'il y aura d'autres produits, puisque étant donné le nombre d'années, de milliards et de centaines de milliers d'heures ingénieurs qui ont été investis dans le projet, si jamais il ne devait y avoir qu'un seul ou deux masques, comme c'est l'appellation officielle, ça coûterait son poste à Tim Cook, étant donné le gaspillage de ressources que ça pourrait représenter.
Tu veux dire que ce serait un échec pour lui?
Ce serait un échec personnel pour lui. Alors que pas du tout, c'est vraiment une vision pour le coup de la société et de son PDG, de son équipe, et un pas supplémentaire dans la technologie et on va faire une vision techno, l'émancipation de la race humaine, rien que ça.
Alors c'est intéressant ce que tu dis, Gilles, on va continuer d'en parler dans quelques instants. On va le faire juste après avoir écouté un extrait du podcast Design Matters de Debbie Millman, un podcast qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est dédié au monde du design. Et cette semaine, elle reçoit Alan Dye, le vice-président d'Apple en charge du design des interfaces homme-machine. C'est quelqu'un qui n'est pas trop dans le cœur de Fabrice, si j'ai bien compris, qui nous dira peut-être pourquoi après. Une heure d'entretien avec lui, dont une bonne partie, enfin on va dire un gros quart d'heure, est consacré au Vision Pro. Donc Debbie Millman avait essayé la veille, c'était à la mi-juin à New York apparemment, où Apple est venu prêcher la bonne parole avec ses masques. Bah, je vous propose d'écouter Alan Dye à propos du Vision Pro et de sa raison d'être, hein, tout simplement.
The great thing is that it's a computer, so the opportunities are limitless, the things you can do with it. So we worked really hard at allowing people to stay connected to the world that they're in. That's why this is very much an AR product. That's why we worked so hard to make it such that when you put it on, what you see is your world. And so obviously a lot of the work we were doing was during the time of COVID, and we were very obsessed with how do you bring people into your space digitally in a way that feels really authentic. You know, and I would see, for example, my kids, they would be having FaceTimes on their phones with their friends, but it wasn't transactional. And what I mean by that is they might just have FaceTime open sitting on their bed, facing up at the ceiling.
Right.
And they're doing their work or what have you, but every once in a while they would check in with their group of friends on their group call. The idea that you can drive the interface with just your eyes is a really big one. And so what do I mean by that? I guess right now the way that it works is as your eyes almost act as a cursor. When you look at buttons and things, they sort of glow, and then you tap your fingers together to select. But we don't even really need you to tap your fingers. You can just, and we have this feature called Dwell that you can turn on, whereby you can just stare at a button And essentially, we'll bring up a little timer, and you can look at the green check mark, if you will, and select the button. No need for any controllers or physical objects or even to be able to tap your fingers together. So it's going to be quite a powerful tool for everybody, and that makes us extremely proud.
Voilà un petit extrait d'Alan Dye dans ce podcast Design Matters. Je vous conseille l'écoute de cet épisode. Ça dure une heure en tout. Il parle de toute sa carrière, même avant d'arriver chez Apple. Hein. Il est arrivé chez Apple en 2006, si je ne me trompe pas, donc juste avant le lancement de l'iPhone. Et puis, il a accompagné surtout l'Apple Watch et puis plus récemment, donc Vision Pro. Qu'est-ce que vous retenez de cette interview d'Alan Dye dans ce podcast? Bon, donc Fabrice, qu'est-ce que tu retiens de cette interview d'Alan Dye? Peut-être pas grand-chose.
Si, plusieurs choses. Alan Dye est un personnage intéressant. Il a quand même une carrière et qu'il détaille dans ce podcast, c'est vraiment intéressant. Non, c'est pas mon artiste favori parce que je trouve que il décrit des choses dans le domaine du design qu'il ne pratique pas lui-même. Et ça, je suis un petit peu surpris, en fait. Il parle beaucoup de le design, et là aussi, notamment pour se faire oublier, où le design, c'est pas uniquement... Ça, il a raison de le rappeler, uniquement la manière, ce qu'on voit, c'est vraiment comment un objet fonctionne, et notamment comment, quand on commence à utiliser une fonction, on ne se pose pas la question de savoir, tiens, c'est formidable cette fonction, ça se fait oublier, et on a toujours l'impression que c'était là depuis le début, et que c'est pour ça, c'est dans ces cas-là que le design est génial, quand il se fait oublier, qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Et c'est un des trucs, je trouve, qui manque de plus en plus dans l'interface graphique d'iOS et dans l'interface graphique du Mac, où il y a de nombreuses fonctions qui n'apparaissent que si on sait qu'elles sont là, qui n'apparaissent qu'au survol de la souris. Il a été là pour le redesign d'iOS 7, par exemple, il raconte ça aussi dans le podcast.
Ouais.
Alors, une de ses excuses, c'est peut-être parce que justement, il travaillait encore dans une autre boîte à ce moment-là, et donc il n'a peut-être pas eu le temps de bien réfléchir. Mais enfin, rappelons-nous que iOS 7, ça a été une grande modification du look de l'interface, mais qui a été pas mal critiquée et qui a été revue en profondeur après, parce que, par exemple, tout était très fin, trop fin. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui n'aimaient pas ça parce qu'on ne voyait plus rien. C'est-à-dire que toutes les polices de caractère étaient très fins, les traits étaient super fins, donc c'est très élégant, mais ce n'est pas pratique. Voilà. Donc c'est souvent ce que je reproche à ce monsieur, c'est de faire des choses très élégantes, mais pas toujours pratiques. Et du coup, je trouve que c'est un aspect du design qu'il oublie. Et pour illustrer mon propos dans un autre truc qui vient du podcast, à un moment, il parle du Vision Pro et il décrit ses enfants qui utilisent FaceTime. Et il dit, je voyais mes enfants avec FaceTime qui utilisaient FaceTime, donc en vidéo, mais dans une utilisation, dit-il, non, j'ai noté ça, transactionnelle. C'est-à-dire qu'ils avaient avaient des FaceTime allumés, posés à plat sur le lit, puis ils faisaient autre chose. Et donc, il dit, grâce au Vision Pro, c'est bien, ils peuvent se voir véritablement et être complètement englobés et être dans une véritable conversation, donc transactionnelle, avec le FaceTime dans le Vision Pro, comme on a vu la démo pendant la présentation. C'est très bien, sauf que les enfants n'ont peut-être pas envie que ce soit transactionnel, justement, et qu'un des soucis potentiels d'un masque de réalité virtuelle, c'est que quand on est dans la réalité virtuelle, on ne peut rien faire d'autre. Alors, c'est moins vrai avec le casque d'Apple parce que, du coup, il y a des caméras qui permettent de voir un peu son environnement, etc. Mais, donc, c'est une autre proposition. Mais là, dans ces cas-là, moi, ma réaction, c'est de me dire, je ne suis pas sûr qu'il se pose la bonne question. Voilà. Alors, je m'empresse de dire, c'est une réaction d'utilisateur. Je ne suis pas moi-même designer, etc. Mais voilà, c'est pour remettre en contexte un peu le personnage de mon point de vue.
Bon, c'est bien, on met une pièce et tu continues de bien parler pour nous répondre, c'est parfait. Ellie, ta réaction à cette interview d'Alan Dye, qu'est-ce que tu apprends? Est-ce que tu apprends quelque chose et qu'est-ce que tu retiens peut-être?
Je n'ai pas appris des trucs bouleversants, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ce que je retiens, c'est que il parle beaucoup de cette équipe de designers. Et c'est bien qu'on reparle de design chez Apple, parce qu'on avait l'impression, après le départ de Johnny Ive, que le design était un peu devenu un annexe d'Apple, et que c'était vraiment le cost saving et l'ingénierie pratique, et non pas justement cet univers un peu visionnaire. Et donc ça me plaît. Ce qui m'a un tout petit peu embêté, c'est qu'on aurait dit un discours dans un club de milliardaires, c'est-à-dire deux mecs richissimes qui se parlent de concepts en disant « mais ce casque-là, c'est génial, tout le monde doit l'avoir ». On parle d'un produit à 4000 balles, hein, donc ça sera un succès quand tout le monde pourra en avoir un, parce que on parlait aussi, est-ce qu'on croit au succès de ce casque, etc. Est-ce que ça ne pourrait pas faire tomber Tim Cook ? Ben, en fait, ce n'est pas la technologie qu'on va juger, c'est combien ils sont capables d'en vendre et qui va l'acheter. Parce que oui, il y a des gens qui vont l'acheter et qui peut-être vont l'utiliser une heure et le mettre dans un tiroir. Mais ils sont tellement riches que de toute façon, ils l'auront acheté parce qu'il faut, c'est le hit product. Et donc, il faut qu'il l'ait. Je parle de chanteurs, de vedettes du cinéma, etc., etc. Mais là, effectivement, lui, dans sa tête, tous ses enfants vont avoir un Vision Pro pour pouvoir interagir avec leurs amis qui eux-mêmes auront un Vision Pro. Donc là, on parle d'un univers d'ultra riche, hein, parce que je ne suis pas sûr que si nous, on arrive à en avoir un parce qu'on est assez fou pour le faire, on en offre un à chacun de nos enfants et de nos amis pour pouvoir interagir dans la joie, hein, parce que bon, c'est ça qui m'embête un tout petit peu, c'est qu'on, c'est ils sont totalement déconnectés de l'univers réel, et c'est une tendance chez Apple. Ils pensent à la technologie, c'est très bien. Ils pensent beaucoup moins au prix. Et je vous rappelle qu'on a un débat en ce moment à savoir quel va être le prix des iPhone 15, merveilleux, qui vont arriver, mais qui risquent d'être plus chers. Parce qu'à un moment donné, je rappelle que nous sommes à l'heure actuelle avec un régime inflationnaire jamais vu ni en France, ni aux États-Unis, ni dans la plus grande partie du monde, et que les consommateurs, ceux qui achètent et qui applaudissent avec leur portefeuille, comme dit Jean-Louis Gasset, c'est des gens qui commencent à regarder leurs sous de près, et qu'on peut avoir un produit merveilleux et ne pas pouvoir se l'offrir parce qu'il est totalement en dehors de nos possibilités. Moi, je m'intéresse peu aux Ferrari alors que j'adore ces voitures, parce que je sais que raisonnablement, ce n'est pas dans mes possibilités. Alors que oui, la technologie d'une Ferrari m'intéresse, comme d'autres choses, comme de voitures encore plus chères que celle-là. Donc, à un moment donné, à qui ils s'adressent et quel est leur marché ? Parce que oui, c'est une plateforme, mais si c'est une plateforme qui va s'améliorer, qui va être plus rapide, mais qui va rester dans plusieurs milliers de dollars, qui va l'acheter ?
Vous êtes très inspirés, mes amis, ça me fait plaisir. Je me tourne vers toi, Gilles, avec cette question. Est-ce que tu ne crois pas, et là j'essaie de prendre un petit peu la défense du pauvre Alan, est-ce que tu ne crois pas qu'Alan, il se projette déjà peut-être 2, 3, 5 ans, quand les produits suivants seront sortis, qui seront moins chers, qu'on pourra plus ou moins tous se les offrir, et donc on aura tous un vision quelque chose à la maison?
Voilà, c'est exactement ce que je voulais répondre. Je ne suis pas d'accord avec mes camarades. Ce que je voulais répondre à Ellie, c'est que moi, je me souviens, j'étais en première année de fac quand j'ai eu mon premier Mac, et je me suis retrouvé coincé à ne pas pouvoir rendre mon devoir à la dernière minute parce que l'imprimante était en panne. Je me voyais déjà proposer au prof de lui prêter mon Mac et avec mon devoir dedans, et miracle, il avait un Mac lui aussi, mais on était le Mac 512 et le Mac 128 la première année ou la deuxième année, il y en avait combien, Eddy, en France? C'était ridicule. On parle de cet ordre là pour le Vision Pro également. Tu parlais de 2, 3 ou 5 ans, moi je parlerais de 10 ans. Il se projette à 10 ans. C'est une nouvelle plateforme. Pour ce qui est du FaceTime transactionnel, je sais pas quel âge ont les enfants d'Alan Day, mais
je crois qu'il a 14 ans.
14 ans, on est aussi dans ce truc de pouvoir faire quelque chose, autre chose, en présence de quelqu'un. On parle pour les petits-enfants, la capacité de jouer en présence de l'adulte, il reste quelque chose de ça chez les ados, et même dans un open space, on va travailler, on va faire autre chose en présence de son coworker qui est en face sur le bureau d'en face. C'est pas, je pense qu'il s'est planté là. Moi, ce qui m'a frappé, c'était cette capacité que va donner le Vision Pro de manipuler des objets mentaux. Un peu comme quand on imagine quelque chose, ce que par exemple font les joueurs d'échecs quand ils font des parties les yeux dans le vide, couchés vers le, et en regardant le plafond, ou quand on va manipuler des objets mentaux, ce qu'on appelle des représentations de choses. La personne qui tient le podcast a posé la question de l'accessibilité également de l'appareil et de l'interface, justement. Et à l'entendre décrire, et entendre Alan Day décrire l'intériorisation dans l'appareil de certaines interfaces adaptées qui ont été mises en avant par Apple sur son site à certains moments, je me demande ce que un Stephen Hawking, qui était prisonnier de sa sclérose amyotrophique, ce qu'il aurait pu faire avec un casque de ce type. Mais je veux dire, même pour tout le monde, c'est une autre façon de penser, de réfléchir, de créer, alors que l'ensemble du... Alors, il faudra y revenir, mais... tout ce qu'on fait habituellement, c'est regrouper ou coucher des idées et des concepts à l'intérieur de cadres définis, la table de papier, le tableau. Même quand on regarde la télé, c'est dans un écran qui a, comment dire, une certaine surface. Là, le casque...
Le masque.
Le masque, pardon, j'y tiens. Hein. Le masque de l'Apple Vision Pro va permettre d'ouvrir... vraiment la possibilité de réfléchir. Ça va être une nouvelle façon de penser et de construire des concepts et de les assembler, je crois.
En tout cas, ce qui est assez évident, c'est que après la WWDC et avant que tout le monde parte en vacances, Apple a voulu assurer le SAV, en tout cas une première couche de SAV. Je suis sûr qu'ils vont revenir à la charge à la fin de l'année et puis évidemment en début d'année prochaine quand il sortira commercialement. Ellie, est-ce que tu sens le plan marketing se dérouler selon un agenda bien établi?
Je pense qu'Apple en a un, et je pense qu'ils sont suffisamment habiles pour ne pas nous en parler. Mais je crains que le premier modèle de Vision Pro soit un casque vraiment réservé aux États-Unis, peut-être au Canada et en Angleterre. Et pour des tas de raisons de production et autres, et que...
qu'on n'en voit pas la couleur, c'est ça que tu veux dire?
Oui, je pense qu'on aura du mal à le voir, et peut-être que si jamais ils en avaient suffisamment, soit parce qu'ils en produisent plus que prévu, ce qui serait étonnant, soit parce que ça se vend moins que prévu et du coup il est un peu plus disponible, ça va être encore une fois réservé à une élite avec une distribution élitiste, c'est-à-dire qu'il sera présent dans peut-être quelques Apple Store dans les très grandes villes, je pense à Londres, je pense à Paris. Ça m'étonnerait qu'on voit un Vision Pro à l'Apple Store de Nice ou chez nous, hein, dans sa première génération. Je le regrette beaucoup, mais je ne vois pas, parce qu'il y a toutes ces histoires, comment est-ce qu'il va être livré, d'ajustements, de pièces qui seront complémentaires, ou de scans à faire par rapport à la vision des personnes, ce qui suppose d'avoir soit un ophtalmo à disposition, soit une machine automatique tellement géniale qu'elle est capable de le faire, et dans lequel cas ça va coûter, la machine va coûter le prix d'un wagon de casque, donc qui va pouvoir se la payer. Donc je crains que vraiment, au départ ça reste très très américain, et que si jamais ça arrive en Europe, je ne sais pas quand, mais quand il va commencer à arriver en Europe, on sera déjà quasiment en train d'annoncer le 2. Ouais. Donc
Fabrice.
Oui, je trouve que ce que décrit Élie, en fait, ne fait que confirmer les points soulevés par Gilles. C'est-à-dire que si on considère véritablement que c'est une nouvelle plateforme, c'est en tout cas comme ça que c'est présenté par Apple, c'est normal qu'on avance à petits pas. Donc, comme le rappelait Gilles, les débuts du Mac, le premier Mac et les suivants, c'était très cher. Le premier Mac que moi j'ai touché...
Mais lancement mondial, quand même, hein.
Tu as raison, mais enfin, donc à des Mac, un SE ou un SE30 à l'époque, c'était 30 000 francs. C'était très cher et c'était du coup élitiste. Voilà, donc il faut bien commencer par un bout, quoi. Et en plus, comme tu le décris justement, Élie, le masque. Il a besoin d'être ajusté à la vue, à la taille, avec les sangles, la sangle sur la tête ou pas, tout ce qui est le contour des yeux pour bloquer la lumière. Enfin, donc il y a beaucoup d'éléments qui rendent même la vente, en fait, la distribution très, très complexe. Ce sera simplifié sûrement petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive par exemple aux lunettes qui ne demanderaient pas tout ça, mais donc on n'y est pas encore et c'est là où ça va prendre des années. Donc je rejoins un peu Gilles là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'y est pas, si c'est une nouvelle plateforme, forcément ça prendra du temps, quoi. Alors élitiste, après, on a bien vu jusqu'à présent que finalement Apple n'est pas timide en ce qui concerne les prix. Et ça a l'air de lui réussir parce que les prix augmentent et tous les trucs partent toujours en deux secondes tellement les gens en veulent. Alors là, il n'y a plus de limite. Hein.
Gilles, tu veux rajouter quelque chose ?
Le lancement du Mac était mondial, mais il avait fallu attendre plusieurs mois, plus de 3 mois, 4 ou 5. On avait bouclé le dossier parce qu'il y avait en plus... Je l'ai eu grâce à mon tonton qui était prof, qui a fait baisser de 30% la facture. Ça n'aurait pas été possible sinon, mais il a fallu plusieurs mois avant de l'avoir en décembre, juste avant Noël. C'est un peu de cet ordre-là. Il y a la présentation, ok, le début de la commercialisation, il va falloir mettre localiser, comme on dit très vilainement, toutes les interfaces et les adapter au vocabulaire de chaque pays. Le français québécois sera pas le même que le français de France, comme disent nos amis de la belle province. Donc, il y a d'énormes marchés. Il y a l'Inde, il y a éventuellement la Chine, si c'est autorisé. Il y aura pas le russe d'ici un petit moment, je pense, mais il y a tout un tas de pays. L'Allemagne, rien que l'Europe représente une tour de Babel et de quoi s'arracher les cheveux pour les services d'Apple.
Ça, c'est pas un sujet, parce que Apple sait localiser des produits. Ils ont une équipe, ils savent parfaitement localiser un produit dans toutes les langues qu'ils veulent. Ça ne sera pas un frein. Il y aura pas une minute perdue par rapport à la localisation, parce qu'ils savent travailler là-dessus. Xcode est capable de le faire, il travaille dans plein de langues, l'OS est capable de le faire, etc. Donc ça, c'est pas un sujet. Le sujet, ça peut être le hardware, les difficultés de montage et le fait qu'ils vont en produire très peu. Je ne pense pas, en tout cas moi c'est mon opinion, qu'on va pas dire il va être retardé de 1 an en France parce qu'il faut le traduire en français. Je n'y crois pas. Pas une seconde.
Pas d'un an, mais ça pose des questions par rapport à une nouvelle plateforme, une nouvelle interface. Il va falloir repenser ça. Ils ont mis des années, des mois et des années avant de réussir à le faire pour l'anglais. Les premiers lancements seront dans des pays anglo-saxons, États-Unis, Canada et Royaume-Uni. Il y a aussi tout un travail à faire de ce côté-là. Souviens-toi, Apple avait appris l'homme à l'ordinateur. Il va falloir qu'il fasse la même chose pour le masque.
Bon, écoute, Gilles, je ne sais pas. Je pense que l'Apple de l'époque a un peu évolué aussi. Je suis plus proche de la vie d'Elie que du tien, mais nous verrons bien et nous en reparlerons, comme on dit. On se retrouve dans un instant pour le deuxième gros morceau de la semaine. C'est l'info de la semaine, c'est les Mac M3 en approche à la rentrée. Ce serait la deuxième keynote au mois d'octobre. À tout de suite. Il y aura donc probablement une deuxième keynote à la rentrée au mois d'octobre, après la keynote de l'iPhone 15 et de l'Apple Watch en septembre. Et cette deuxième keynote sera principalement consacrée au premier Mac à processeur M3, ce qu'on attend. C'est ce que croit savoir Mark Gurman de Bloomberg. Il le disait dimanche dans sa newsletter Power On. Alors, je me tourne vers vous, mes experts préférés. Est-ce que ça vous semble...
Pauvre François.
Plausible et logique. Je pense aussi à François qu'on embrasse, évidemment, qui se remet des vieilles charrues. Alors, Mac en octobre, Mac M3 en octobre, est-ce que ça vous semble cohérent, plausible, logique? Et quel Mac en octobre? Élie, je te vois dandiner à alors, droite, à gauche.
Oui, en fait, je suis assez content que Marc confirme ce qu'on dit et répète, en tout cas moi je le fais à chaque fois, sur l'arrivée des M3 et les machines. Donc ça ne vient que confirmer ce qu'on a déjà dit et redit dans l'émission. Vous pouvez vous référer à des émissions passées. Donc, octobre ou novembre, on a dit fin d'année, toujours pareil, le M3 par rapport au volume de production possible chez TSMC et au succès de l'iPhone 15 qui va quand même... capter la plus grande partie de la production de ces produits. Et ensuite, oui, dans un cycle logique, ça devrait commencer par du MacBook Air M3 si Apple reprend le cycle des produits tels qu'ils l'ont fait depuis le M1. Donc MacBook Air M3, MacBook Pro 13 pouces M3, le mal-aimé, mais ouais. Tant qu'Apple le gardera, oui. Mac Mini M3, oui. Viendrait probablement...
C'est pas prévu, hein. Gurman le cite pas. Hein,
non, je Mac sais, mais c'est pour ça que je dis peut-être, celui-là, c'est avec un gros point d'interrogation, suivi, mais peut-être pas en même temps, du modèle 15 pouces, parce que ça serait vraiment très proche du lancement du modèle actuel en M2. Donc, est-ce qu'il l'annoncerait en même temps? Logiquement, il devrait, mais ça veut dire que le produit aurait eu 6 mois de vie, quoi. Donc, franchement, ça serait, c'est du jamais vu chez Apple.
Et donc, toi, tu vois déjà fait le coup.
Toi, tu vois le même trio que pour le M1, c'est-à-dire MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac Mini.
Avec une inconnue, parce que peut-être le Mac Mini, pas tout de suite, mais qui pourrait être remplacé dans ce cas par l'iMac, mais. Qui lui est apparu plutôt quelques mois après en M1. Et puis après, encore une fois, les pros, probablement fin de printemps, voire WWDC pour les MacBook Pro 14 et 16 et Mac Studio éventuellement, etc. Donc ouais. Je suis assez sûr du début. L'inconnu, c'est effectivement quand sort l'iMac. Parce que ce n'est pas parce qu'on a parlé de lui en premier lieu en disant Apple fait des tests sur une machine avec processeur M3, etc., qu'il va sortir avant le MacBook Air. Pourquoi pas d'ailleurs, hein. C'est en tout cas celui le plus ancien dans la gamme actuellement. Donc,
c'est ce que je voulais te dire.
Oui. Donc, mais alors, octobre ou novembre, moi je dis, ça dépendra du nombre de processeurs disponibles parce que pour ces machines-là, où c'est un lancement mondial, cette fois-ci, sans aucun doute, ils ne peuvent pas se permettre de dire on annonce 7 produits, mais il y a 4 mois de délai parce qu'on n'arrive pas à en produire assez. Ça, ce n'est pas possible. Ça serait un ratage pour la saison de Noël et pour les ventes de Mac énorme. Donc, ils doivent lancer tous les produits qu'ils sont capables de produire. Donc, s'ils arrivent à produire tout, bah, ils peuvent lancer tout. Hein. Mais bon, raisonnablement, ils vont le faire en plusieurs vagues.
Je me tourne vers toi, Fabrice, pour recueillir ton sentiment sur la perspective de cette deuxième keynote, donc à la rentrée en octobre avec les premiers Mac M3. Je voudrais bien que tu me donnes, toi, ta propre liste de Mac qui serait annoncée lors de cette keynote. Sur quoi tu miserais?
Sur les MacBook Air, effectivement.
Les MacBook Air au pluriel?
Oui, alors moi, Apple a déjà fait le coup, je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est à ça que pensait Gilles. J'ai réagi pareil que lui tout à l'heure quand Élie a dit que ça n'était jamais arrivé. Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est l'iPad 3.
Exactement. Alors, et l'iPad Air.
Voilà, l'iPad 3, c'était le premier iPad avec un écran Retina, mais qui était en fait totalement sous-dimensionné en termes de puissance de calcul. Et du coup, ils l'ont vite changé parce que en fait, ça tenait pas le coup. C'était trop lent pour cet écran-là. Alors, c'est un petit exemple parce que c'est pas non plus une machine très importante. En tout cas, à l'époque, c'était pas une machine très importante pour Apple. Mais du coup je me dis quand même que maintenant la gamme MacBook Air elle est quand même très importante. Ils ont un petit peu tardé pour le modèle 15 pouces, c'est évident. Il me semble qu'on a finalement qu'on a compris, que c'est même Apple qui l'a dit, que le 15 pouces était prêt, qu'ils ont retardé la sortie pour des histoires peut-être de fabrication, peut-être de marketing, peut-être de ce qu'on veut.
Il aurait dû sortir plus tôt, ça c'est sûr.
Il aurait dû sortir plus tôt, il était prêt, donc je pense pas qu'ils refassent le même choix si le modèle M3 est prêt. Et que tant pis, ils vont se manger les critiques, c'est pas les premières. Et puis voilà. Le doute que j'ai, c'est sur le Mac Mini, parce qu'en fait. Je suis assez d'accord que l'iMac devrait sortir. Lui, on l'attend depuis longtemps. L'iMac date d'avril 2021, l'iMac M1. Donc là, il y a un moment, c'est vrai qu'on là, il y a un petit souci. Et puis, moi, je me souviens quand même que le Mac Mini, sa durée de vie normale, ou en tout cas sa durée de mise à jour normale, c'est plutôt plusieurs années. On s'est souvent plaint que le Mac Mini était mis à jour très très rarement. Et là, coup sur coup, on a le Mac Mini M1, puis le Mac Mini M2, puis le Mac Mini M2 Pro. Qu'est-ce qui se passe? Alors cette machine, jusque-là, était pas, ne bénéficiait pas autant de l'amour d'Apple. Donc, je serais pas étonné, moi, que maintenant qu'il y a un Mac Mini M2 et M2 Pro, que Apple fasse une petite pause sur cette machine d'entrée de gamme. Voilà, c'est formidable. Et que pour donner un petit peu de place à l'iMac M3, qui aurait effectivement beaucoup de sens. Voilà. Et puis ensuite, pour les machines Pro, on verra, mais...
Ok, alors je demande le même exercice à Gilles. Gilles, cette keynote du mois d'octobre potentielle, qu'est-ce que tu vois comme Mac annoncé?
Comme mes camarades, je vois bien du MacBook Air et éventuellement un MacBook Pro 13 pouces. Maintenant, on est sur l'iMac 24 pouces, sauf erreur de ma part. On est toujours au M1, est-ce qu'on passe au M2 ou est-ce qu'on passe directement au M3?
À mon avis, en octobre, il n'y a plus de M2 annoncé, c'est fini le M2.
Et on a déjà eu la même chose, on s'est déjà fait la même réflexion avec le Mac Studio et en fait, il n'y a pas eu du M3, c'était du M2. Donc,
le M3 n'est pas encore dispo, vous n'allez pas annoncer un Mac Studio M3?
Donc moi je vois bien un iMac M2 avec
Tu vois un iMac M2 au mois d'octobre?
Non, il teste le M3. Le M2 il le teste même pas. Non.
Il teste le M3. Vous êtes sûr de ça?
Oui, en iMac oui.
Bon, alors à ce moment-là, un iMac 24 pouces en même temps que le reste, ça nous ferait 1, 2, éventuellement 3 modèles. Avec, si on compte deux MacBook Air et puis un modèle de table qui serait l'iMac 24 pouces en attendant la fin des tests sur l'iMac 32 pouces.
Ok.
Alors, j'ai un truc en suspens. Est-ce qu'ils auront un écran supplémentaire meilleur marché comme il en a été question? À ce moment-là, il y aurait éventuellement une mise à jour du Mac Mini qui reste hypothétique. Je n'en sais rien, c'est une possibilité qui est en l'air.
En fait, les trucs illogiques sont que, bien sûr, je suis d'accord avec vous, le MacBook Air 15 pouces devrait sortir en même temps que le 13. Devrait, ça risque de froisser des gens.
Mais c'est pas possible, M2 a été annoncé en juin, ils vont pas sortir le M3 en octobre.
Non mais c'est ce que je disais
juillet,
au début.
Juillet,
mais...
septembre, 4 mois, c'est pas possible.
Mais le problème c'est que si tout le reste sort en M3, le 15 pouces arrête de se vendre.
À un moment donné, bien sûr.
Donc, garder un produit s'il ne se vend pas, c'est... Non, mais c'est ça, mon paradoxe et mon inconnu. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé au début et que ça me pose une vraie question. Après, moi, si j'étais Apple, mais je ne le suis pas, je commencerais par sabrer le MacBook Pro 13, qui est un produit qui n'a pas de place dans sa gamme.
Complètement.
Vraiment.
Tellement.
Je ne vois pas ce qu'il fait là. Donc, et il s'obstine. Alors, oui, il a le touch bar. Ok. Donc, si quelqu'un
c'est ce que disait Fabrice dans la quotidienne.
Ouais. Ben oui, mais c'est le seul intérêt. Et chez nous, par exemple, il ne se vend pas du tout. Mais alors, pas du tout.
Ouais.
Donc,
en fait, je pense que c'est ça que Gilles va dire. Il a une raison d'être. Vas-y, Gilles.
Il a un ventilateur.
Est-ce qu'il se vend ? Mais oui, avec ses chaleurs.
C'est pour les gogos.
Pardon ?
C'est pour les gogos, le MacBook Pro 13 pouces. Je suis désolé pour ceux qui l'ont acheté, mais c'est pour les gogos.
C'est pas gentil, mon capitaine.
Non, mais, honnêtement, on l'a tellement dit ici, on a prévenu, oui. Si on avait pu un par un vous dire ne l'achetez pas, on l'aurait fait, mais malheureusement, c'est un attrape-nigo tendu par Apple.
Il y en a eu d'autres dans l'histoire d'Apple, c'était les iBook G4 qui sont restés, ou Intel qui sont restés des années au catalogue quand on passait à des plateformes 1000 fois plus performantes. Soit ils veulent, s'il est toujours au catalogue, c'est que il se vend ou ils ne savent pas quoi faire des stocks. J'en sais rien. Donnez-le à des écoles à ce moment-là.
Mais qu'est-ce que tu lui trouves de bien?
Ou au petit lépreux de Jakarta, enfin.
Rien. Oui, c'est ça. Avec des moufles.
Non, c'est pas qu'il a quelque chose de, il a quelque chose de bien. Je pense qu'il a cet intérêt d'avoir le mot pro en fait derrière. Et en fait,
c'est
l'arnaque.
Oui,
non,
c'est
mais l'arnaque. J'entends bien, mais c'est un peu ce qui se passait déjà avec l'iMac il y a un iMac d'entrée de gamme qui est resté très longtemps au catalogue et qui était le seul avec un disque dur mécanique alors que tout le monde était passé au SSD. Et donc l'iMac d'entrée de gamme, c'était le moyen pour Apple de garder, en gardant ses marges, hein, forcément, toujours, un iMac d'entrée de gamme à un niveau de prix X que Apple considère être de l'entrée de gamme. C'est ce qui se passe, me semble-t-il, avec ce MacBook Pro 13 pouces. Donc je confirme ce que disent mes petits camarades. Si vous avez des gens autour de vous, rendez-leur service, dites-leur que c'est pas utile. Cela dit, pour ce qui est des gens qui font des achats en entreprise, par exemple, il y a des entreprises, s'il n'y a pas marqué pro derrière, ils n'achètent pas. Voilà. Mais il y a aussi des problèmes de budget. Donc, le premier MacBook Pro, aujourd'hui 14 pouces, il faut, en France en tout cas, débourser 2 200 € et quelques. Donc, quand on veut équiper une flotte de gens avec des MacBook Pro, ben, on ne peut pas prendre celui-là. Et on n'a pas le droit de prendre un MacBook Air, même quand on est un DSI avec plein de galons sur les épaules, parce que la compta dit « non, ce n'est pas possible, c'est trop cher ». Donc, Apple propose, et je pense que c'est même en fait une demande de certains grands comptes, d'avoir un MacBook Pro 13 pouces à 1200, 1300, 1500 euros, avec l'équivalent en dollars, pour que le responsable des achats informatiques dise « voilà, on achète des MacBook Pro pour les gens voilà. ». Jusqu'à ce que Apple soit capable de sortir un MacBook Pro 14 pouces qui soit dans des prix acceptables pour les grands comptes comme ça.
Ouais,
donc
c'est
oui,
d'un
point de vue technique, c'est pas acceptable, mais je pense que c'est ça le raisonnement.
Je peux me permettre de vous donner ma petite estimation
pour
oui,
la keynote oui.
Voilà, bon. Bon, moi, mon sentiment sur cette keynote potentielle d'octobre, moi, j'ai une seule certitude, c'est l'iMac. Je ne vois pas comment Apple pourrait repousser davantage la mise à jour de l'iMac 24 pouces ou la sortie de l'iMac 32 dont on a déjà parlé. Alors, l'iMac 32 sera peut-être pour plus tard, mais il y a urgence sur le 24 pouces. Et si l'iMac 24 passe du M1 au M3, ça va être un nouveau carton, je pense, Ellie. Tu seras d'accord avec moi, j'imagine. Oui. Après, sur le MacBook Air, c'est très très probable pour le 13 pouces. Je ne vois pas Apple mettre à jour le 15 pouces 4 mois après le lancement de la version M2, sauf à... à froisser ceux qui auront acheté le M2 depuis la mi-juin. Je trouve ça un peu compliqué. Le MacBook Pro 13 pouces, je trouve que l'explication de Fabrice est extrêmement convaincante. Il y a sans doute une stratégie commerciale pure et bête derrière. Après, c'est vraiment une machine pour moi qui devrait effectivement sortir du catalogue. Le Mac Mini, bah, c'est vrai que le rythme de renouvellement, il est généralement supérieur à 2 ans. Et donc, je vois pas le. En plus, il est. Le Mac Mini M2 Pro est quand même. Enfin, il a pas vraiment de défauts. Il fait exactement ce pour quoi il a été lancé. Donc, je pense qu'il attendra peut-être le M4. Après, moi, je me posais une question, et c'est une question presque philosophique. Mais est-ce que c'est pas une aberration qu'Apple, avec une nouvelle famille de processeurs ou une nouvelle génération de processeurs, ne commence pas par sortir ses machines pro? Et je pense notamment au MacBook Pro 14 et 16. Est-ce que ce serait pas logique, avec l'arrivée du M3, premier processeur gravé en 3 nanomètres, qui va sans doute à nouveau battre des records de puissance, d'efficacité énergétique, etc. Est-ce que c'est pas une aberration de pas commencer par sortir les machines pro?
Ben non.
En premier.
Parce que c'est plus compliqué à fabriquer, et donc Apple a toujours commencé par la gamme grand public parce que c'est ce qui va lancer le produit et les chiffres de vente, etc. Et ensuite, il lance la gamme.
Je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est une variante plus complexe du processeur, c'est ça que tu veux dire?
Oui, parce que faire de l'ultra-fusion avec du 3 nanomètres, peut-être qu'ils vont l'appeler hyper-fusion cette fois-ci, ou extrême-fusion, puisque le reste, on l'a déjà utilisé, mais en 3 nanomètres, va coller deux M3 ensemble. Il faudrait qu'on demande à Frédéric Crassa, mais à mon avis, il vaut d'abord qu'il lance la gamme déjà M3 avec un gain de performance qui va être bien. Mais en attendant, ils travaillent déjà, bien sûr, sur la gamme Pro. Hein. Ils travaillent dessus. Hein. Mais quelques mois.
Est-ce qu'ils ne sont pas coincés par l'appellation? Parce qu'ils pourraient très bien sortir des processeurs destinés aux machines Pro en premier. Et puis, dans un deuxième temps, sortir des machines grand public. Je trouve ça bizarre que les machines pro bénéficient de la dernière génération presque un an après les machines grand public. Ça me semble étonnant.
Là, ce n'est pas un an. On parle de six mois peut-être. 6 mois, printemps, 6-8 mois.
C'est... Ouais. Non, mais là, on a la rentrée qui arrive. Et sur du MacBook Air qui se vend le mieux, qui est le truc fétiche des étudiants, c'est le moment ou jamais où il faut le sortir. C'est en octobre et pas au mois de mars ou de février,
bien sûr,
ne serait-ce qu'en janvier.
Bah, octobre, c'est presque trop tard. On a raté la rentrée et tout.
Les étudiants sont équipés déjà. Donc ça, c'est sûr. Mais ils ne peuvent pas le sortir avant, tout simplement parce que le lancement de l'iPhone, ne l'oubliez pas, il n'y aura pas de 3 nanomètres tant que l'iPhone n'est pas lancé. Hein.
Bon, écoutez, je crois qu'on a grosso modo atteint une forme de consensus sur le programme des Mac M3 pour cette keynote du mois d'octobre. Il y a quand même quelques incertitudes, peut-être qu'elles seront levées d'ici là, via ceux qui savent des choses avant tout le monde, Mark Gurman, Ming-Chi Kuo, Kuo Ming-Chi pour les intimes, etc.
Et le meatball.
On en reparlera évidemment à la rentrée après les vacances. Et il se sera forcément passé des choses. En tout cas, on avait aussi envie de faire un dernier point avec vous avant de vous souhaiter de bonnes vacances sur ce qui va arriver, si tout va bien, quelques semaines après l'iPhone à la rentrée. On se retrouve dans un instant. Allez, en quelques minutes, on va vous raconter les 3-4 rumeurs tombées cette semaine. Les rumeurs de la semaine, allez, on reprend quelques-unes des rumeurs qu'on a évoquées dans la quotidienne iWeek, notre podcast quotidien du lundi au vendredi, 5 à 10 minutes par jour sur les 5 infos essentielles de l'écosystème Apple. Alors on va commencer par revenir sur le Vision Pro avec cette indiscrétion qu'on doit au patron de la NBA, le championnat de basket américain, Adam Silver. C'était pendant la conférence de Sun Valley, un rendez-vous très prisé des milliardaires auquel Tim Cook d'ailleurs a participé cette semaine. Confidence donc d'Adam Silver au New York Post qui dit du bout des lèvres que oui, NBA et Apple travaillent étroitement ensemble pour amener le basket américain sur Vision Pro en réimaginant l'expérience qu'on peut avoir sur les bords du terrain. Alors c'est intéressant parce que on a consacré le bonus de la semaine dernière au contenu qui arriveront sur Vision Pro. On était avec Thibaut Bisson notamment du compte Twitter Apple TV Plus FRA. On a parlé évidemment beaucoup des séries et du cinéma. On a un petit peu évoqué le sport, mais voilà. Évidemment, un débouché potentiel qui fera envie à des clients, Élie.
Ah ben absolument. Des clients qui voudraient se payer des front row seats, donc des sièges bord de piste, qui, je vous rappelle, aux États-Unis, c'est des abonnements qui sont pratiquement impossibles à trouver qui coûtent mais des sommes confondantes. Et c'est des matchs, tous les matchs de NBA sont quasiment pleins, avant même que la saison commence. Et si vous voulez les meilleurs sièges, ça coûte une blinde. Donc c'est digne d'un Vision Pro. On est encore dans le sport élitiste, là.
Eh oui. Fabrice, voilà, la NBA, ça peut être une des killers, comment on dit, pas features, mais un des avantages du masque.
Oui, moi je pense en fait au sport en général, que c'est parmi la... Alors, je suis très embêté maintenant parce que quand on utilise le mot vision, il faut faire attention. Mais Apple a des visions quand même à long terme, et le fait que ils investissent dans le basket, dans le foot, dans tout un tas de sports, c'est pas uniquement pour retransmettre des matchs, c'est aussi pour innover autour du sport. Et la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout ce que vous voulez, c'est un bon endroit parce que il y a donc les front row seats, comme disait Élie, et puis ensuite des matchs, quel que soit le sport, qui sont filmés avec 18 caméras tout autour, au-dessus, etc. Ça permet ensuite de recréer des, en temps réel, quand on a les calculs, ça existe déjà sur le football américain, où ensuite il y a un point formidable, on peut le montrer en représentation 3D extrêmement précise, et là on propose à des gens, regardez, on vous le montre, et en plus vous choisissez l'angle, vous pouvez mettre même regarder le point depuis le point de vue du ballon, si c'est un sport de ballon. Enfin, on peut faire des trucs, et là pour ça on peut s'imaginer avec 3000 personnes qui seraient exactement au même endroit sur le terrain pour regarder la rediffusion du point formidable dans tous les sens. Ça, Apple peut faire ça.
Ouais. C'est marrant, ça me fait penser à une des dernières phrases d'Alan Dye dans le podcast dont on parlait tout à l'heure. Il dit à la fin, en gros, après avoir goûté aux Vision Pro, vous ne réussirez plus à vous contenter de votre écran, de votre moniteur 2D votre bureau.
Je le crois, hein. Je le crois tout à fait.
Élie,
après, il y a deux sports.
Ça va être pareil avec la télé.
Oui, bien sûr. Oui, il y a deux sports, et on attend d'ailleurs, en parlant d'émissions télé, ce que va proposer Disney ou ce que pourra proposer Canal là-dessus. Mais il y a deux sports qui, effectivement, pourraient être incroyables pour un casque comme ça ou un masque comme ça. C'est le golf. Parce que là, je te garantis qu'il y a des tas et des tas de golfeurs qui achèteraient pour avoir une expérience immersive en golf. Hein. C'est déjà, quand on voit ce que ça coûte d'être membre dans un club comme ça, un club de golf prestigieux, le casque, c'est gnognotte à côté. Et le deuxième, très spectaculaire, c'est la F1. Parce que t'imagines,
c'est
immersif.
C'est ce que je voulais dire.
La F1, c'est juste dingue.
Ce qu'il faut, c'est se représenter que, justement, Apple va péter tous les modèles et redéfinir la façon dont on vit le sport c'est ça, dont on le vit et dont on est plongé dedans. Et le meilleur moyen d'avoir une idée de se représenter ce qu'Apple va pouvoir proposer, c'est ce que Canal a pu redéfinir en termes de avec l'F1, la vision subjective dans les stands, dans la voiture, etc. Ce qui se passe entre les stands et le pilote, mais là avec une vision immersive en plus à pratiquement à 180, un peu plus de 180 degrés, c'est une redéfinition de, encore une fois, de l'expérience utilisateur.
Ouais.
Puis c'est pas un hasard si Apple TV Plus s'est mis à travailler avec Canal Plus. Je pense qu'il y a autre chose que de la distribution. Ouais. Il doit y avoir une réflexion sur les process derrière.
Bien sûr. Alors, à propos de basket, hein, je vous le rappelle, mais on le sait depuis la keynote de la WWDC du 5 juin, le jeu NBA 2K2023 arrivera lui aussi sur le masque de réalité mixte d'Apple. On va passer aux rumeurs à propos de l'iPhone 15 avec d'abord ce nouveau type de batterie pressenti. Il s'agirait de batteries alors qui seront plus d'un seul bloc, mais qui seront constituées de couches superposées, alors avec plusieurs bénéfices. D'abord 10% de puissance en plus dans le même volume, des batteries qui seraient plus sûres aussi puisque chaque couche pourra être désactivée indépendamment en cas de souci. Et puis le dernier avantage, c'est que ces batteries en couche auraient une durée de vie plus longue
et qu'elles se chargent plus vite.
Ouais. Alors donc, ça fait quand même beaucoup d'avantages. Est-ce que ces avantages, Apple va nous les facturer, Ellie?
Ah ben oui.
Ah ben oui alors.
Ben oui. Hein. C'est sûr que oui. Hein. Mais disons que l'iPhone 15 doit être pour Apple un énorme succès. On sort de mauvais résultats, de mauvais trimestres, etc. Ouais. Donc on a déjà commencé à entendre ici et là qu'il sera plus cher. Enfin le Pro en tout cas, qu'il sera plus cher. Et il faut qu'il ait des killer technologies. Pas que le Pro Max, hein, le Pro aussi. Le Pro Max, pour les photographes, ça a toujours été ça. Mais même le Pro doit avoir des killer features, parce que iOS 17, tout le monde l'aura. Or, le cadre j'ai oublié le métal précieux, mais vous allez me le rappeler.
Donc en titane.
En titane, ça c'est un plus. Et c'est plus léger, plus résistant, etc. Mais on a besoin de choses tangibles. C'est sûr que le 3 nanomètres augmente l'autonomie de l'appareil. Si en plus, grâce à ce nouveau genre de batterie qui existe déjà dans les voitures électriques, hein, donc c'est pas Apple qui l'a inventé, mais ils appliquent une technologie certes beaucoup plus grande parce que dans une voiture il y a plus de place. C'est très intéressant parce que si on combine du 3 nanomètres avec du multicouche en batterie, Apple pourrait donner une autonomie d'iPhone qui serait incroyable. On pourrait doubler l'autre. Enfin, je fais une hypothèse, hein, je dis n'importe quoi, mais on pourrait genre doubler la batterie, et là les gens diraient: ah bon, mais un iPhone qui me dure plusieurs jours, moi qui dois le charger deux fois par jour, vu mon usage. Là ils ont une killer feature. Si la durée de batterie de l'iPhone est plus importante, c'est très important parce que le processeur sera là, l'écran sera là, le cadre sera là, tout le reste sera déjà disponible. Mais ça, c'est une des choses dont on a le moins entendu parler, mais qui est le facteur d'achat d'un téléphone pour certains, c'est l'autonomie. Parce que ce sont des gros parleurs ou des gros consommateurs de multimédia ou d'Internet ou autre, en voyage ou ailleurs. Donc, Apple, s'ils peuvent faire ça, ils marquent un énorme point dans la bataille contre les autres.
Alors, ils seraient les premiers à l'intégrer dans un smartphone, parce que tu parles de voitures électriques, mais est-ce qu'il y a d'autres constructeurs? Est-ce que Samsung utilise déjà ce genre de batterie, à votre connaissance?
Non. Samsung y travaille, et Apple serait les premiers à utiliser cette sorte de technologie, une sorte de Vienneta, vous savez, en couches successives, mais le cerveau...
Ah oui, à
le
la
cerveau,
menthe.
Le néocorte.
Ou à la fraise.
Je ne sais pas. Le cerveau utilise ce type de plissage dans le néocortex des mammifères supérieurs. Mais je voudrais pondérer ce que dit Ellie. L'iPhone ne se vend moins bien. Le 14 se vend moins bien que le 13, mais il se vend tout de même pas mal pour un marché qui, lui, se casse la figure. Il tire relativement
son
épingle du jeu.
J'ai jamais dit le contraire.
Mais ce n'est pas des mauvais chiffres. C'est des chiffres qui sont ceux du contexte du marché du téléphone qui a tendance à se contracter parce que les gens font des arbitrages entre remplir le frigo et frimer à l'extérieur avec l'iPhone.
Il y a un élément supplémentaire à ça, Gilles, c'est qu'à l'heure actuelle, et je parle de la clientèle jeune qui a été souvent, jeune et aisée, qui a été souvent parmi les premiers à acheter un iPhone, puisque c'est un produit, c'est un hit product, c'est un produit que tu dois avoir quand tu sors en boîte, etc. Il faut que tu aies le dernier iPhone. Ça se voit d'ailleurs dans les séries télé, tu as toujours le dernier modèle d'iPhone. Bon, certes, c'est Apple qui en produit beaucoup, donc ils font du placement produit. Mais tous ces jeunes-là, et de plus en plus, sont à l'heure actuelle totalement obsédés par la durabilité des produits, par le recyclage, par le racheter, etc. Et donc, la mode de dire « je veux un iPhone chaque année parce que c'est le nouveau modèle » est passée à « je veux un iPhone tous les 3 ans ». Et donc, on est passé par un cycle qui était mauvais. Pour qu'Apple réussisse à casser ce cycle, il faut qu'il sorte un produit différenciant parce que sinon, si l'iPhone 15 va ressembler au 14, qui ressemblait au 13, qui ressemblait pas mal au 12, les gens vont se dire « je vais faire un geste pour la planète et pour mon portefeuille et je vais attendre le 16 dont on commence déjà à me parler ». Donc c'est là où Apple joue gros. Apple ne peut pas, je l'ai dit 1000 fois dans cette émission, se permettre de rater un lancement d'iPhone. Ils ne peuvent pas.
Bien sûr. Alors, dernière rumeur hein, sur ces iPhone 15. On commence à parler des couleurs. Alors, un peu moins intéressant à mon goût, mais ça vient de Shrimp Apple Pro, qui est généralement bien informé. Alors, sur les modèles non pro, en tout cas, donc le 15 potentiel et le 15 Plus, s'il reste au catalogue, attendez-vous, en plus des couleurs habituelles, donc Midnight, Starlight et Product Red, à du vert, à du jaune et au retour du rose.
Oui.
Et ça, c'est peut-être lié à la sortie du film Barbie.
Peut-être, mais en tout cas, il y a une énorme demande de rose dans nos magasins. Clientèle féminine. Mais absolument, il y a des...
Demande de rose.
Oui, pour des femmes. Elles veulent des produits roses. Moi, j'ai même des déçus qui disent « Ah mais non, mais si vous ne l'avez pas en rose, non, je ne veux pas. » Non, c'est un vrai phénomène.
Ils ne méritent pas d'avoir un iPhone.
T'as raison.
Qu'est-ce que c'est que c'est...
T'as raison.
Enfin, voyons.
T'as raison.
Il faut une couleur pour tout le monde.
Pas un téléphone pour sa couleur.
Bon, et puis on va finir avec une dernière rumeur. On parlait du basket tout à l'heure. Là, on va revenir au sport avec le foot, et notamment le foot en Allemagne. Puisqu'Apple TV Plus serait en négociation avec la Bundesliga pour acquérir les droits à partir de la saison 2026-2027 et donc dans 3 ans, on parle donc de la première ligue allemande, ce serait la première incursion d'Apple dans le foot européen et on vous rappelle qu'Apple possède déjà les droits de la MSL, la Major Soccer League donc aux États-Unis, donc c'est le football mais aux États-Unis. Élie, tu me confiais en enregistrant La Quotidienne que tu avais été sondé il y a quelques mois.
Oui, par rapport aux différents championnats européens, et les questions étaient très précises en disant « Est-ce que vous aimeriez avoir la Liga espagnole dans un abonnement Apple TV+ ?» La question, c'est de s'adresser vraiment au football espagnol, qui est un des grands championnats avec la première ligue anglaise. Aujourd'hui, les grands championnats, c'est Angleterre, Espagne, Italie, ce sont les grands. L'Allemagne vient un peu derrière. Alors, évidemment, il y a un championnat montant qui est le championnat saoudien, qui pour l'instant n'est pas connu mondialement, mais s'il continue à piquer tous les joueurs qui existent dans le monde, dans 3 ans, il vaudra mieux qu'il y ait une retransmission des championnats saoudiens, parce que sinon, on ne verra aucune vedette. Hein. Mais...
Et alors, je t'avais demandé si le championnat de France était dans ton questionnaire.
Non.
Non.
Non. Trop cher.
Ah, ça les intéresse pas. Ah non, certainement pas plus cher que la première ligue
pas assez cher, mon fils,
anglaise
ou au saoudien.
Oui, c'est ça.
Non, mais j'avais dit qu'il ne pouvait pas se fâcher avec Canal Plus justement. Donc.
Élie,
c'est mieux comme raison.
La réponse à la question était évidemment non, c'est ça.
Mais évidemment que oui. J'en ai marre de devoir me débrouiller par 10 000 moyens pour pouvoir regarder mes matchs de foot espagnol. Heureusement que Canal+ retransmet tous les matchs du Real. Ça, bon. Quoi qu'il se passe, on les a déjà. Mais moi, j'aime bien les regarder en espagnol, tant qu'à faire.
Bon, en tout cas, si vous cherchez celui qui a voté 10 fois, on l'a trouvé. Hein. C'est lui. Allez, on se retrouve dans quelques secondes avec nos coups de cœur, nos cartons de la semaine. Alors, est-ce que la semaine sera positive ou négative? Je ne sais pas. Je me tourne vers toi, Fabrice, en attendant de savoir si Ellie et Gilles ont quelque chose à nous proposer cette semaine. As-tu un carton ou un coup de cœur?
Alors, j'ai écrit dans notre beau conducteur le mot « scribe », que j'aurais tendance donc à prononcer à l'anglaise, donc « scribe » pour la tablette Kindle Scribe que j'ai depuis quelques jours, et donc c'est plutôt un coup de cœur.
Oh,
je la montre pour les auditeurs qui ont la chance d'avoir la couleur. Donc là, il y a la couverture sur l'écran éteint donc, de cette tablette, puisque c'est un Kindle donc, qui utilise de l'encre électronique. Du livre que je suis en train de lire. Et puis,
Ninth House.
Et alors, l'intérêt de ce modèle, c'est que donc, c'est un plus grand écran, donc c'est un écran à peu près de 10 pouces, et qui a, vous voyez peut-être sur le côté, je décris, il y a un stylet. C'est le premier Kindle qui permet d'écrire sur l'écran avec un stylet. Et pendant qu'on écoutait une portion de l'interview, enfin du podcast avec Alan Dye, j'ai pris des notes, justement. Voilà. Et alors, c'est très intéressant pour tout un tas de raisons. D'abord, bon, moi, je suis investi dans l'écosystème de Kindle pour les livres. Donc, l'écran est plus grand et c'est très bien parce qu'avec mes yeux qui fatiguent, bah, du coup, j'ai tendance à grossir un peu quand je n'ai pas mes lunettes ou ma lentille. Du coup, j'ai mis les caractères un peu plus gros, ce qui est un des intérêts des livres électroniques. Et puis, quand sur un écran plus petit, bah, je commence à plus avoir beaucoup de mots sur la page. Alors, du coup, c'est bien d'avoir un écran plus grand quand je lis sans mes corrections. Le fait de pouvoir écrire, c'est vraiment intéressant. Et en plus, je trouve que là, ça fait quelques jours que je l'utilise. La sensation d'écriture est excellente sur cette tablette, c'est-à-dire qu'il y a un peu de texture sur l'écran, au contraire de ce qui se passe avec un iPad où on écrit sur du verre avec une pointe en plastique, et j'ai toujours trouvé ça très désagréable, et là, en fait, je trouve ça très agréable, il y a un bruit qui est agréable aussi, et donc pour prendre des notes, c'est un stylet qui est compatible Wacom en fait. Et donc, c'est comme une tablette Wacom sur une tablette à encre électronique. Voilà, s'il y a du rétroéclairage, comme vous avez peut-être vu, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus lourd, évidemment. Mais pour l'instant, c'est très positif. Voilà, donc ça s'appelle le Kindle Scribe que j'ai depuis quelques jours. Et, ouais.
Et ça vaut combien, cette chose-là?
Le petit coup de cœur que je voulais faire. Ça vaut à partir de 370 € avec un stylet simple. Moi, j'ai pris le stylet qui s'appelle Premium. C'est-à-dire qu'il a deux choses. Il a un bout qui est une gomme. Donc, on peut le retourner pour effacer ce qu'on vient d'écrire ou n'importe quoi. Puis, il y a un petit bouton dessus. Autant de choses que l'Apple Pencil n'a pas, par exemple. Le petit bouton permet, il est mis comme ça par défaut. Quand on appuie dessus, on laisse le doigt appuyer et on passe par-dessus et on fait un surlignage. Voilà. Sur le texte qu'on vient d'écrire. Donc c'est dans ces cas-là, ça coûte 30 ou 35 euros de plus, il me semble à peu près, donc 400 € pour la tablette. Et alors le dernier avantage magnifique de ce genre de truc, c'est que on parlait d'autonomie tout à l'heure d'un iPhone qui pourrait tenir 2 jours, ce serait formidable. Ça, on peut utiliser ce Kindle-là pendant plusieurs semaines sans avoir à le charger.
Génial. Voilà.
Donc c'est aussi un truc, ça c'est un truc vraiment un atout vraiment indéniable. Le point qui peut déranger certains, c'est que c'est en noir et blanc. Voilà, l'encre électronique en couleur existe, mais ça c'est pour l'instant la techno est vraiment pas au point. Ça fait des années qu'ils essayent, c'est moche. Donc ça reste en noir et blanc. Donc c'est très lisible. Quand on est au soleil, c'est très très lisible parce qu'il n'y a pas besoin de rétroéclairage pour voir. C'est un affichage réflectif. Donc quand il y a de la lumière autour de vous, on lit très bien. Donc quand il fait beau comme de nos jours et qu'on veut lire dehors, c'est bien bien plus agréable de lire sur un Kindle que sur un iPad. Et puis je vais m'arrêter là parce que je pourrais en faire 2 heures sur l'intérêt de tout ça. Voilà,
merci,
c'était mon coup de cœur.
Tu as dépassé la minute qui t'était accordée.
C'est ça,
c'est exact.
Mais j'avais une question. Est-ce que tu es limité au bouquin format Kindle ou est-ce que tu peux lire du EPUB et les autres?
Tu peux mettre de l'EPUB dessus sans problème. Les Kindle sont compatibles EPUB depuis plusieurs années maintenant. Donc, tu peux transférer de l'EPUB.
D'accord, très bien. Merci Fabrice pour ce coup de cœur.
Si je comprends bien.
Gilles, je me tourne vers toi. Coup de cœur ou coup de gueule et carton?
Les deux. D'abord, le coup de gueule par rapport au dernier James Bond qui a été diffusé dimanche par France 2. Je ne me souviens plus du nom. C'était à un moment donné, on voit le portrait du cyber vilain qui est sur sa tour. Et en fait, ils ont pris exactement la pose de Jobs. Quand il se pince légèrement le menton, il y a eu deux photos à 30 ou 40 ans d'intervalle, je ne sais pas si vous voyez là, avec les mêmes lunettes rondes et transparentes sans bordure. Le film est produit par Sony, donc ne cherchez pas pourquoi.
Le James Bond, c'était « Demain ne meurt jamais ». Voilà.
Voilà.
Et je crois qu'il a été battu par « Retour chez ma mère ».
C'est bien fait.
Bon, ça fait plaisir à Gilles alors.
Voilà.
C'est bien fait.
C'est bien fait.
Ça leur apprendra. Et donc, le coup de cœur, j'aurais aimé vous en parler la semaine dernière, mais j'ai pas pu participer à l'émission. Il s'agit d'un podcast qui s'appelle Cyberpouvoir sur France Inter et qui est tous les dimanches de l'été à 13h15. Et qui est animé par Asma Mala, qui est une tête chercheuse à l'Institut Montaigne et qui est lectureur. Alors je parle sous le contrôle de Fabrice, c'est chargé de cours ou c'est pas encore maître de conférence à Columbia, à New York, et puis également à Sciences Po et à Polytechnique. Partie des jeunes chercheurs de 35 ans à peu près qui donne envie de croire que ce pays n'est pas foutu et que l'humanité non plus. Et donc, son champ de recherche, ce sont les enjeux politiques et géopolitiques de la tech, en particulier la convergence entre les ingérences étrangères, les fermentations complotistes et coopérationnistes qui sont sur les réseaux sociaux, et puis qui vont alimenter ce récit et cet imaginaire. Et puis les théoriciens maximalistes du cyber qui, sous prétexte de liberté d'expression, vont favoriser ce bouillonnement. Il y a un invité chaque semaine en fonction du thème qui sert de... C'est un événement historique de la tech récente qui sert de point de départ à une réflexion beaucoup plus large. La semaine dernière, c'était l'affaire Snowden. Dimanche dernier, c'était Cambridge Analytica et la semaine prochaine, ce sera l'intelligence artificielle. Vous l'avez peut-être déjà vu sur France 5, elle est invitée régulièrement.
Merci Gilles pour cette bonne idée, Super Pouvoir, le podcast de France Inter. Alors moi, je vais faire très vite, 2 fois 30 secondes. J'ai un carton jaune et un carton rouge. Alors, le carton jaune, je vais me l'adresser à moi-même. C'est de ne pas avoir conservé l'un de ces iPhone Edge de 2007 que j'avais rapporté des États-Unis et fait rapporter des États-Unis. J'ai dû en avoir une bonne quinzaine entre les mains. Ne pas les avoir conservés dans leur boîte jamais ouverts, puisqu'un modèle de 4 gigas vient de s'arracher aux enchères à plus de 190 000 $. Bon, il faut dire que c'est un modèle qui a été vendu que quelques semaines, le 4 gigas, puisque à l'époque il était sorti en 4 et en 8, et très vite le 8 a été le seul à être proposé avant qu'Apple passe au 16. Et donc le 4 giga est particulièrement rare. L'autre carton, alors c'est un carton rouge pour le coup. Alors ça n'a rien de grave, mais quand on connaît les lieux, ça fait bizarre. Je termine la série qui s'appelle Liaison sur Apple TV+, qui est censée se passer en partie à Bruxelles. Et donc je suis vers la fin de la série, je dois être dans l'épisode 5, et donc on est à Bruxelles, Vincent Cassel, qui est donc le héros masculin, sort de l'hôtel où il est à Bruxelles, et, pour, avec une femme qu'il protège et qu'il est censé faire monter dans une voiture pour partir assez vite. Et en fait, quand ils sortent de l'hôtel... à Bruxelles, en fait, ils sont dans le 8e arrondissement à Paris. Je connais très bien la rue, puisque c'est la, c'est la rue dans laquelle ma chérie a son bureau. Et donc, je peux pas me tromper, même s'ils ont mis deux voitures avec des plaques belges, c'est quand même une rue de Paris. Et donc, je trouve que c'est une grosse arnaque et je trouve ça complètement fou. Alors, à mon avis, ils ont dû oublier de tourner un plan et ils se sont dit, on va le faire à Paris, personne ne se rendra compte. Mais ça fait très bizarre quand on connaît l'endroit, parce que là, on se dit, mais c'est complet. Enfin, c'est... du coup, tout le. Tout le réalisme de la série s'écroule parce que c'est pas du tout à Bruxelles.
Mais il y avait peut-être un porte-loin. C'est de la fiction.
Bah oui,
c'est
mais
pour
bon.
Faire rêver. Non, mais ce qui est dingue, que c'est que
le plan suivant, c'est un plan vu du ciel où avec une caméra qui filme vers le bas. Et là, c'est bien Bruxelles avec le tramway, les rails, etc. Mais quand il sort de l'hôtel, c'est rue Laborde dans le 8e arrondissement à Paris, près de près du quartier de la Madeleine, etc. Donc, je suis pas content du tout. Après liaison, voilà.
Ouais, mais ça me rappelle, moi ça m'énerve aussi parce que quand je vois des films américains où il y a marqué aéroport de Monaco, en sachant qu'à Monaco il n'y a pas d'aéroport, hein, mais bon, pour les Américains ça passe. Donc, à chaque fois ça m'énerve, mais c'est comme ça.
Il y a 15 jours, j'avais râlé après Abyss où il parlait du CHU de.
Oui.
De Saint-Jean-de-Luz, en fait. Ah oui, ouais. Et en fait, il y a deux articles, une série d'articles sur Sud-Ouest qui sont sortis là récemment. Et il y a des problèmes de fungus et de parasites dans la baie tout autour de Saint-Jean-de-Luz qui sont en train de ressortir et ça devient impossible de se baigner, les pêcheurs sont très impactés au point de vue santé. Ça ressemble furieusement à ce qui était décrit dans la série, et la dermatologue qui a été interrogée par Sud-Ouest ressemble comme deux gouttes d'eau à Cécile de France dans la série.
Tu vois des Cécile de France partout. Bon, c'est vrai, c'est dur de vous quitter, même si on sait que c'est pour la bonne cause et pour un chouette projet. On va revenir tout bronzé. Après avoir rechargé les batteries, on sera chargé à bloc pour une nouvelle saison et une nouvelle grande année d'infos dans l'écosystème Apple qu'on va partager avec vous. C'est l'occasion de vous rappeler que nos podcasts sont indépendants, notamment vis-à-vis d'Apple, qui ne nous finance en aucune manière. On va tout vous dire, ils refusent même de nous traiter comme tous les autres podcasts, et donc de nous mettre en avant, notamment sur Apple Podcasts, pour une seule raison, parce que nous parlons d'Apple, y compris là où ça peut faire mal, et ça leur pose des problèmes. Et donc, je pense que c'est la meilleure garantie de notre indépendance. C'est pas un fantasme, hein. Ils nous l'ont écrit noir sur blanc. Voilà, je profite de ce dernier épisode pour vous le préciser, c'est important. Salut mes amis, salut la team. Quel bonheur d'avoir passé cette saison avec vous. Elia Beatball.
Plaisir partagé. J'étais ravi de participer à cette saison. Et je vous dis à bientôt, à la rentrée.
Absolument. Salut Gilles.
Salut Benjamin. Bah, comme Ali, tout pareil, tout comme. J'étais ravi d'être là. Pas assez à mon goût, peut-être trop au vôtre.
Oh.
Enfin, j'essaierai d'être là la semaine prochaine. L'année prochaine.
Sans nous. Non, je plaisante. Salut Fabrice.
Salut mon capitaine. Bah, moi, toujours très, très heureux d'avoir rejoint l'équipe. Donc, comme Elie le faisait remarquer avant qu'on commence à enregistrer, je suis encore le petit nouveau. Et bah, écoute, ça dure, même si ça commence à faire un bout de temps que je suis là. Mais je suis toujours très content. Et donc, on vient d'apprendre. Je voudrais quand même remarquer deux petites choses. On vient d'apprendre que Gilles serait là la semaine prochaine. Donc, il sera tout seul parce que nous, il ne sera pas là. Mais je voudrais que justement on rappelle que grâce à Gilles, on doit être quand même le seul podcast sur la Terre qui est capable en une seule phrase de passer de la Vienneta au cortex cérébral. Et donc quand même là, il y a quelque chose de formidable que personne ne peut nous prendre.
Absolument. Et c'est la raison pour laquelle vous allez me manquer, mes amis. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la rentrée. Alors... On va pas se mentir, on va pas se quitter complètement pour autant, puisque pour patienter, on prépare notamment un bêtisier que je vous conseille de ne rater sous aucun prétexte quand il arrivera au cœur de l'été. Ainsi, vous saurez qui de nous cinq imite parfaitement le bruit d'un train avec sa bouche. Et je vous garantis que c'est du très haut niveau mondial. Merci de votre fidélité à iWeek, la semaine Apple. Plus que jamais, abonnez-vous au podcast et à la quotidienne iWeek. Sur toutes les plateformes, c'est gratuit et vous serez prêts pour la rentrée. Pour nous soutenir aussi, plus que jamais, on a besoin de vous pour préparer cette rentrée. Patreon.com/iWeek. Merci beaucoup, merci à tous nos soutiens et on a hâte que vous rejoigniez cette communauté pour profiter de ces avantages dont les épisodes vidéo en avance et le bonus hebdo exclusif. Et pour cette dernière, il est consacré à l'eSIM en France, notamment dans la perspective de l'arrivée de l'iPhone 15 qui pourrait peut-être être le premier iPhone sans tiroir pour carte SIM physique. Voilà, prenez bien soin de vous, chacune, chacun, tous autant que vous êtes. Passez une bonne soirée, une très belle fin de semaine, de bonnes vacances, faites un bon break, déconnectez un petit peu, faites-vous du bien, et puis on vous donne rendez-vous, allez, le 24 août au plus tard, pour le début de la saison 4 d'iWeek, la semaine Apple. Salut à tous, et bye bye, et bonnes vacances, ciao, et on se retrouve pour les spéciales, bye. C'est promis.
Bonnes vacances.
Bye bye.